Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Fanny pour un petit audio consacré à Perséphone et son mythe, notamment parce que nous sommes le lendemain de la fête d'Imbolc et du retour de la déesse sur Terre, que nous pouvons célébrer de bien des façons, mais surtout par ressentir cette joie de la voir revenir, ressurgir et d'apporter son énergie pour ensemencer la vie. Mais si j'ai envie de vous parler de ce mythe-là et de ses multiples versions et de toutes ses compréhensions, il y a en ce moment une espèce de résurgence absolument dingue du mythe de Perséphone dans la culture. Donc des œuvres d'art, des séries littéraires et puis aussi la naissance fabuleuse du concept « enemies to lovers », c'est-à-dire « d'ennemis à amoureux », qui pullule dans la fantaisie notamment. Donc il y a là une somme de réécriture absolument passionnante qui montre que ce mythe est toujours vivant. Et s'il l'est, c'est parce que c'est au bénéfice de notre conscience, sinon il dépérirait et on n'en parlerait plus. Mon but ici, c'est de montrer 6 possibilités d'être touché par ce mythe, d'entrer en résonance avec lui, et puis même, pourquoi pas, d'être passionné par lui. Le mythe de Perséphone, c'est plusieurs versions. Dans la première, la classique, qui a été transmise par les auteurs grecs Hérode et Platon notamment, et de façon plus contemporaine aussi par Édouard Chouret, auteur alsacien du livre culte des Initiés. Mais ici, je me réfère plutôt à son œuvre Les Drames d'Éleusis, car l'initiation au mystère dans l'Antiquité passait directement en fait par le mythe de Perséphone. Il constitue en fait théâtralement la base des initiations, à Éleusis. Donc dans cette version-là, Perséphone, qui n'est encore que corée, naïve, innocente, jeune et vierge, est enlevée par le dieu Hadès, qui est frère de Zeus, pour l'épouser dans son domaine, celui de l'ombre et de la mort. À ce sujet, on oublie souvent 2 choses à propos d'Hadès. C'est 1. Sa puissance, et 2. Qu'il a eu l'autorisation de faire ce qu'il a fait. Car avant de kidnapper la belle, il a demandé permission au père de la déesse de l'épouser. Dans la plupart des cas, en fait, même si ce n'est pas clairement écrit, c'est en fait Zeus qui est le père de Perséphone. Et Zeus va dire oui. Il dit oui pour 2 raisons, parce que, comme d'habitude, nous ne parlons pas là d'un enfant légitime dans son mariage avec Héra, puisqu'il l'a eu avec une autre déesse, Déméter, la déesse de l'agriculture. Deuxième chose, c'est parce que nous parlons là d'Hadès, qui est en fait l'équivalent strict de Zeus. L'un va régner sur le monde visible et l'autre sur l'invisible. On n'évoque pas suffisamment que leur puissance est équivalente parce qu'ils règnent sur 2 mondes différents et opposés, mais que leur pouvoir en fait est similaire et égaux en puissance. Donc on voit bien Zeus, roi de l'Olympe, il faut s'imaginer l'équivalent pour Hadès. Étrangement d'ailleurs, celui qui règne dans la lumière va posséder moins de valeur finalement que l'autre parce qu'il n'hésite pas à tromper sa femme, à violer, à utiliser son pouvoir pour manipuler, pour abuser, pour faire un petit peu ce qu'il veut, prendre des décisions justes ou injustes, mais voilà, c'est un peu l'autorité folle qui n'a pas vraiment de règles. Et on a l'autre, Hadès, qui va demander notamment la main de sa future femme à qui il va rester toujours, toujours fidèle, même quand elle part 6 mois. Donc, on pourrait un peu les voir comme 2 jumeaux de face opposée, de même puissance, mais régnant dans 2 royaumes aussi opposés et avec des caractères radicalement opposés aussi. Donc, Zeus donne la main de sa fille à son frère, voilà, et cela sans prévenir la mère de Perséphone, Déméter, et il va se décider enfin à l'informer, plusieurs mois, voire plusieurs années après, on ne sait pas trop, mais uniquement parce que la famine sera tellement forte sur Terre que plus personne en fait n'aura les ressources pour honorer Zeus. Parce qu'un Un dieu qui n'est plus vénéré, qui n'est plus honoré, va perdre en pouvoir et en puissance. Il en a besoin, en fait, pour pouvoir rester sur son trône. Et pourquoi il y a la famine ? Parce que tout simplement, Déméter, la mère de Perséphone, comme je vous l'ai dit, est déesse de l'agriculture, et elle va passer 100% de son temps à rechercher sa fille disparue, et donc l'agriculture va passer au second plan pour elle, elle s'en fiche. Ce n'est pas dans une intention punitive qu'elle fait ça, c'est juste parce que trouver sa fille est ce qu'il y a de plus important pour elle. Cette histoire ne choquera pas en fait le système patriarcal grec de l'époque, parce qu'en ce temps-là, la femme ne s'appartient pas, elle passe directement des mains du père à celui du mari, donc là, pour cette version-là, il n'y a aucun problème en fait pour les Grecs. Ensuite, je ne parlerai pas ici de bien des choses, notamment du lien incestueux qui existe dans tous les mythes, notamment des dieux puissants comme Isis et Osiris, qui sont frères et sœurs, mais aussi époux, ça mérite en fait un audio à part entière. Donc, on passe très vite à la suite de l'histoire. Corée devient Perséphone, épouse d'Hadès et surtout reine de ce deuxième royaume. Donc, elle acquiert le même statut que Héra, d'une grande puissance. C'est en fait l'une des deux déesses les plus puissantes de toute l'Antiquité. Donc, on arrive ici à la première possibilité d'écho, la première possibilité de résonance, c'est que Corée, son histoire, commence en tout cas en tant que victime d'abus et finit en tant que Perséphone, une des déesses les plus puissantes. Dans cette version, il y a donc une morale guérisseuse qui nous dit que l'on peut grandir, on peut guérir même des traumas les plus difficiles, et dans le processus, retrouver toute notre souveraineté à la fin. Donc on a cet archétype de la femme innocente, faible et impuissante, la victime en fait, qui va devenir une des déesses les plus puissantes du Panthéon, et cela va diffuser un message d'espoir à toutes les femmes qui se sont senties un jour impuissantes. Donc un jour, oui, il est possible de devenir reine, telle que Perséphone, puissante et 100% souveraine. La deuxième version est déjà écrite très tôt, ce n'est pas forcément contemporain, et elle va non plus nous montrer un vol et un viol, mais une histoire d'amour et un choix. Dans cette version-là, Corée tombe amoureuse d'Hadès, souvent sans savoir qui il est, et il va finir par l'emmener et faire d'elle sa reine, toujours la même fin. Et il y a donc deux intérêts à cette version. D'abord, l'amorce d'un changement profond dans la société qui n'accepte plus le romantisme des mariages forcés ou d'un évident syndrome de Stockholm. Ici, dès le départ, la femme, elle a le choix et elle choisit l'amour. Elle dispose de son propre corps et elle dispose de son destin. Et c'est parce qu'elle est libre qu'elle peut faire le choix audacieux de suivre son corps et son cœur. Parce que sinon, qui ? Mais qui choisirait de vivre dans le royaume de l'ombre privé du soleil à jamais ? Qui ferait ce choix? Ce n'est pas raisonnable, et d'autant plus quand on est la déesse du printemps et des fleurs, donc la déesse de la vie. Qui pourrait valider son choix? Choisir la mort alors que l'on est déesse de la vie? Ce serait comme... c'est plus encore que se tuer finalement, c'est donner toute sa puissance, c'est donner ses dons, ses talents, c'est ne plus se réaliser soi-même, apparemment en tout cas. Et ce n'est ni son père ni sa mère, mais Perséphone elle-même, qui est maître de son destin jusqu'au bout. Et c'est elle en fait qui va même arriver à la solution de vivre 6 mois tour à tour dans les deux mondes pour finalement réussir à contenter tout le monde et permettre la paix et la survie des humains. Parce que dans cette version-là, dans toutes les versions en fait, elle va remonter 6 mois dans le royaume invisible et 6 mois dans l'invisible. Parce que n'oublions pas que Zeus est un peu vénère quand même, on ne le célèbre plus, il n'est plus honoré, il perd en puissance, et d'un autre côté, qui dit famine dit décès, donc Hadès, lui, va croître en puissance. C'est une situation qui ne fonctionne plus pour Zeus, qui pensait se débarrasser d'un problème en donnant sa fille en épousailles, et finalement, il se retrouve avec une punition de taille, puisque lui-même perd. Il commence à s'affaiblir. c'est absolument impossible, et on arrive dans une situation où les deux royaumes vont peut-être s'affronter, parce que Zeus maintenant réclame à ce que Déméter puisse venir, obtenir à nouveau sa fille. Elle ne peut pas y aller, donc en fait, il demande à Perséphone de remonter, mais elle a fait son choix, elle ne veut pas. Donc on arrive dans cette situation épineuse où les deux royaumes ne vont plus exister en paix, et ça c'est le pire qui puisse arriver finalement pour tout le monde. C'est Perséphone qui va arriver avec une solution absolument audacieuse de manger des graines pour pouvoir rester en bas. Donc dans certaines versions, elle ne fait pas exprès, c'est « Oups, je suis un peu stupide », et puis finalement ça résout tout. Et dans l'autre version, c'est parce que du coup elle veut pouvoir rester avec son amant, son époux, son bien-aimé, mais qu'elle sait que Zeus reste le roi et doit être obéi par les dieux. Et donc elle ne veut pas perdre quoi que ce soit, elle garde son choix. Dans cette version, on va avoir une résonance et un écho en nous lorsque nous sommes épris de liberté, donc, et puis de paix également, on le voit. Mais aussi parce que on a envie de suivre notre cœur plutôt que notre raison, plutôt que les normes, plutôt que de choisir en fait. On veut tout avoir, sans renoncer en fait à quoi que ce soit. L'amour et le succès, le sens et l'abondance. La joie de vivre et la profondeur, la joie que ce soit dans tous les domaines, professionnel, sentimental, familial, tout. Comme Perséphone, on peut tout avoir. Cette version-là fera aussi une grande impression en soi lorsque l'on fait l'expérience d'un parcours de flammes jumelles. Parce que Perséphone et Hadès, c'est l'union des épousés. Et Perséphone, déesse de la vie, réussit à garder son titre, son talent, tout en réussissant à s'unir à son grand amour qui est la face opposée de ce qu'elle est, la mort. Donc on y voit que la grande dualité finit par s'unir et que c'est un mariage heureux, un des rares des mythes, toute culture réunie, donc à souligner quand même. Ici, les opposés ont réussi l'impossible, vivre une histoire impossible dans la matière, mais avec un amour plus fort que tout, qui réussit à tout avoir, qui est prêt à défendre, à se défendre, même face à une guerre entre les royaumes de l'ombre et de la lumière, donc entre le bien et le mal, donc qui dépasse tout ça. Ces trois possibilités d'écho, ces trois résonances, se passent toutes sur le plan extérieur, dans la matière. Mais ce mythe peut aussi se voir du point de vue intérieur, du point de vue de l'âme. Dans ce cas, le royaume de la vie et de la lumière va symboliser la conscience, le moi. Et le royaume de l'ombre, lui, va symboliser l'inconscience. Donc, retour à la première version, celle du kidnapping, où on voit que l'innocence, l'innocente, se fait kidnapper par l'inconscient qui arrive sans prévenir et va l'engouffrer tout entière, sans qu'elle puisse revoir la lumière avant des années. Et c'est ce qu'on vit lorsque l'on tombe en dépression, en burn-out, en nuit noire de l'âme. Le sombre semble nous engouffrer et on ne sait pas si on reverra un jour la lumière, si on retrouvera la lumineuse joie que l'on peut être en nous. Mais là aussi, cette version du mythe est guérisseuse, parce que Perséphone va ressurgir. Et elle va ressurgir dans toute sa gloire, dans sa puissance, dans tous ces symboles de la reine, et plus jamais naïve en fait. Elle nous dit donc qu'il y a une issue et que nous en sortirons encore plus puissants. Mais, là il y a un grand mais, cela vient aussi avec la certitude que nous devrons redescendre régulièrement, donc elle le fait tous les 6 mois, et cette fois-ci dans une introspection beaucoup plus saine, parce qu'elle est maîtrisée, elle va être choisie. Et donc, dans ce cas, elle nous sera aussi plus utile, parce que nous comprenons que finalement, nous appartenons à ces deux mondes. Celui de l'âme, même si nous y sommes entrés de façon un petit peu fracassante, en tout cas dramatique, et celui de la vie, du tous les jours, du mondain, où l'on va travailler, payer ses factures, etc., etc. La deuxième version montre là aussi, au niveau intérieur, un changement dans le comportement du collectif. Certains n'attendent pas de se faire happer par une dépression. Ils décident par eux-mêmes d'aller à la rencontre de leur inconscient en commençant une thérapie pour aller un petit peu mieux ou par curiosité. Ils apprennent également le tarot, ils font des régressions, des rebirths ou explorent le transgénérationnel. L'approche devient alors beaucoup plus douce, hein, moins dramatique, on n'est plus engouffré, on garde la maîtrise des choses, parce que là aussi, c'est un choix. Et pour finir, peu importe les versions finalement, à la fin, à chaque fois, Perséphone épouse Hadès. Et cet amour-là qui est juste et éternel est vraiment un amour idéal que l'on recherche tous, quel que soit en fait le plan extérieur ou le plan intérieur. Mais dans tous les cas, ça reflète ce besoin du plan de l'âme à intégrer en fait la conscience avec l'inconscience, à tout intégrer, à tout unifier, même les opposés. Donc, c'est non seulement voir par la conscience nos ombres, nos émotions reniées, nos faiblesses, nos défauts, nos regrets, nos remords, nos non-dits, mais c'est aussi les accepter pour pouvoir les intégrer. Et les intégrer tous, pas certains, c'est tous les intégrer pour devenir la souveraine Perséphone, il va falloir tous les accepter, tous les intégrer, voire même comme elle, les aimer, parce que le grand atout de Perséphone, c'est d'avoir réussi à épouser ses ombres. Alors, peu importe en fait la façon dont on entre dans cette histoire, par quelle porte, par quelle version elle va nous attirer, finalement c'est cet attrait du grand final de la souveraineté pleine, totale, à 100%, qui rend cette histoire éternelle, qui fait qu'elle se transmet, qu'elle reste vivante, génération après génération, époque après époque. Parce qu'il y a cet espoir à l'intérieur de devenir un être complet, complètement soi, uni même à l'opposé de tout ce que l'on est. Et ainsi, d'entrer dans une puissance vraie et profonde. C'est vraiment un attrait de l'âme pour ce mythe-là, qui va faire tellement, tellement écho en nous. Mais finalement aussi, la grande morale, c'est que cela commence toujours par aller voir sous la surface. Et puis, voilà, c'est un peu toutes les raisons qui, moi, personnellement, font que ce mythe est mon préféré de tous, et que ça l'est en fait dans toutes ses versions. Voilà, j'espère avoir apporté un petit peu de compréhension et d'attrait au symbolisme et au grand mystère à travers du coup ces 6 résonances possibles avec le mythe de Perséphone. Je vous remercie d'avoir écouté cet audio jusqu'à la fin. Je vous dis à très vite, ici ou ailleurs, hein, sur She Art Wild. Et puis, je vous embrasse en souhaitant que vous preniez bien entendu bien soin de vous. À très bientôt !